Allons regarder ensemble les versets 21 à 39, mais j'aimerais juste pour qu'on commence, juste parce qu'on va se concentrer là-dessus une bonne partie du message. On va commencer en disant les versets 21 à 28. Et donc la femme cananéenne, ou dans un autre évangile, ça nous dit la femme syro-phénicienne. Ça veut dire qu'elle venait de la Syrie, Phénicie.
Ça me donne les deux.
Ouais, syro-phénicienne ou cananéenne. Demandez-moi pas toute la géographie de ça, là. Mais c'est pas ça qu'on regarde, surtout, c'est on regarde comment Jésus enseigne la compassion là-dedans. Donc, on est dans Matthieu 15 et on va lire à partir du verset 21. J'entends encore le bruit des pages qui tournent. C'est OK. Donc Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. C'est vraiment quelque chose ici, on a un passage, c'est quand même assez connu dans les évangiles. Et j'aimerais vous faire remarquer que la section qu'on va lire au complet à travers le message, on a lu ici jusqu'au verset 28, mais on va aller jusqu'à la fin du chapitre. Selon ce que je comprends, parce que vous allez voir, on a les d'autres guérisons qu'il fait, ça dit quand il vient près de la mer de Galilée. Mais tout ça, je pense, se passe en territoire de population païenne. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas en Israël. Là, déjà, quand ça dit des territoires de Tyr et Sidon, OK, ça, c'est carrément païen. Mais ensuite, quand il s'en va faire des guérisons à partir du verset 29, puis après ça, la multiplication des 4000, d'après ce que je comprends du narratif puis de la géographie de ce qui arrivait là, je pense que c'était une foule à majorité païenne. Okay? Parce qu'on sait que quand on parle de la Décapole, par exemple, ça faisait partie là, du territoire, c'était des païens qui avaient dans ce cas-là. Donc, tu sais, les païens et les juifs étaient loin, pas loin les uns des autres et tout ça. Et je pense que il y a une leçon à tirer de ça. Dans le sens que Jésus a fait une intrusion dans ces territoires-là, et on le voit beaucoup exercer la compassion, il répond aux besoins, et on va apprendre de ça là-dessus, mais juste un petit mot là-dessus, on a vu v'là quelques semaines la multiplication des pains pour 5000, qui d'après encore là ce qu'on comprend était faite en milieu juif avec des juifs, mais ça c'est drôle, parce que Jésus aurait multiplié des pains, ça veut dire... autant pour les juifs que pour les païens, lui, le pain de vie qu'il offre, lui, il y a même une symbolique là-dedans. Vous ferez vos études vous-même si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. On s'entend que là, on ne va pas diviser l'Église là-dessus, mais d'après ce que je comprends de ce passage-là, c'est vraiment à ces gens-là, des gens qui n'étaient pas premièrement de descendants juifs. OK? Donc, faut comprendre que lorsque je dis ça, pour nous, ça ne nous change pas grand-chose dans notre vie. On va boire des juifs, des païens. À l'époque, c'était quelque chose de gros. OK? Hey, les juifs, pour eux, c'était offensant. Hein? On va pas vers les païens, on n'a pas de relation avec eux. Puis savez-vous, c'était réciproque. Les païens n'avaient pas des sentiments très chaleureux envers les juifs non plus. OK? Souvent, le langage du rejet, c'est réciproque. Puis ça se... Parce que vous savez... Dieu avait dit qu'il devait se séparer des pratiques des nations, du paganisme, de l'idolâtrie. Mais Dieu n'avait jamais dit qu'il devait les détester, les regarder de haut. En fait, je pense que c'est la leçon principale ici. Dieu, tout le temps, dans tout l'Ancien Testament, oui, il a donné la loi, il a donné sa révélation aux Juifs, mais c'était pour qu'il soit la lumière des nations, c'était pour qu'il y ait compassion de ces gens idolâtres et pris dans les ténèbres pour qu'ils partagent la foi qu'ils avaient dans le vrai Dieu. Okay? Et je pense qu'on voit ici Jésus qui enseigne ça. Pour ça que je pense que deux versets qui sont bien importants dans notre texte cet après-midi. D'abord, au verset 31, ça dit en sorte, bon là, c'est la foule ici qui avait, où est-ce qu'il y a des gens, là, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades avaient été guéris. Puis là, ça dit en sorte que la foule, verset 31, était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël, voyez-vous? Pensez ça, c'est ces païens-là glorifiaient le Dieu d'Israël. Savez-vous que ça a été le but de Dieu depuis dès le début, en donnant à Israël sa loi puis ses commandements, c'est que les nations glorifient le Dieu d'Israël. Jésus accomplit ce qu'eux ont échoué à faire. Puis quand on regarde au verset 32, Jésus ici s'adresse à ses disciples. Jésus ayant appelé ses disciples dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. » Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Parce que Jésus ici enseigne aussi une leçon à ses disciples. Moi, j'ai compassion d'eux autres. N'avez-vous pas compassion d'eux autres? Ah oui, ils sont dérangeants. Ah oui, ils sont différents. Ah oui, c'est, pour prendre une parole qui a été dans les prières ce matin, c'est des gens amochés sur le bord de la route. Mais n'est-ce pas des gens pour lesquels Christ est mort aussi? Est-ce que ça... Rédemption ne dépasse pas les limites d'un territoire, de toutes les extrémités de la terre. C'est un des versets que j'aime tellement. Et ça me donne tout le temps la vision du ciel, comment ça va être. Ça dit que dans l'Apocalypse au chapitre 5, que Jean a vu devant le trône des gens de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, et tous, ils chantaient ce cantique puis ils rendraient gloire à l'agneau. Jésus est en train déjà de commencer ce travail-là. Dans son ministère et aussi dans le cœur des disciples, parce qu'il voulait les amener aussi à ce point-là. Et il y a un constat là-dedans, il y a un constat de l'échec d'Israël qui aurait dû amener les nations à glorifier le Dieu d'Israël. Et ça dit même qu'il était dans l'admiration, on va en parler dans un instant, mais il avait échoué. Il n'avait pas eu compassion pour ces personnes. C'était des personnes qui avaient une âme éternelle. Et n'est-ce pas le constat aussi qu'on peut tirer pour nous, le peuple de Dieu, même après la croix? Comme les disciples avec la femme cananéenne, on trouve des gens dérangeants. Puis on ne dit peut-être pas aussi clair, mais notre message, c'est « Seigneur, renvoie-la. » Parce qu'il nous irrite. Ou des fois, des gens sont repoussants à cause de leur péché. Quand on est un enfant de Dieu, on déteste le péché. Mais ce qu'on voit au-delà, que Christ aime le pécheur et que l'amour de Christ qui est versé dans nos cœurs, est-ce que cet amour-là n'est pas plus grand que le dérangement qu'on peut avoir face à ces pécheurs? N'est-ce pas que la Bible nous dit que nous, si nous sommes de Dieu, ça dit « Petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et son amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est ça qui nous anime de la compassion qu'on devrait avoir envers ces gens-là. Et Jésus nous donne trois enseignements au sujet de la compassion dans les textes qu'on considère cet après-midi. D'abord, dans les versets qu'on a lus, versets 21 à 28, on voit l'importunité de la compassion. L'importunité de la... On l'a lu, la madame était dérangeante. C'est un peu comme, vous savez, on voit ça dans le livre des Actes, la madame qui avait un esprit de python puis qui criait en arrière. C'est des serviteurs du Dieu Très-Haut, puis là, il était irrité. Mais c'est un peu la même idée ici. Elle n'était pas très discrète, mettons. « Hey, fils de David, aie pitié de moi! » Et la situation avec cette femme montre, ou si vous voulez, nous rappelle comment Dieu nous enseigne sa compassion par l'entremise des importunités que des personnes, des événements, des circonstances qui nous arrivent. Vous savez que souvent, quand quelque chose nous dérange, parce que Dieu nous enseigne à avoir le cœur... comme on dit en québécois, le cœur à la bonne place par rapport à ça, la bonne réponse, la bonne attitude, la compassion qu'on devrait avoir. C'est précisément pour ça que Dieu nous dérange parce qu'il veut faire sortir de nos cœurs ce qui est là. Qu'est-ce qui est arrivé ici? La madame était dérangeante, mais Jésus veut les amener au point où est-ce que ce qui était dans le cœur des disciples est sorti. Renvoie-la. Je ne sais pas pour vous, mais comme programme d'évangélisation, là, on pourrait peut-être faire mieux. Ils étaient en campagne d'évangélisation, eux autres-là. Là. Puis eux autres, ce qu'ils disaient dans cette campagne-là, c'est « renvoie-la ». OK, si on fait des évangélisations, s'il vous plaît, prenez pas la méthode des disciples, OK? Je pense que ce n'est pas la meilleure façon d'avoir un impact dans la communauté. À lui, il me dérange, dehors! Toi, dehors! Non, je pense que, tu sais, on peut trouver mieux comme approche. Mais Jésus, dans sa compassion pour les disciples, voulait faire ressortir, parce que c'était ça qui était dans leur cœur. Ils pouvaient bien avoir des apparences, mais c'était la réalité dans leur cœur. Il a trouvé dérangeante, cette madame-là. Et Jésus voulait faire sortir leur réelle attitude par rapport à comment elle était. C'est là qu'il voulait les amener pour leur montrer à eux leur besoin de compassion. Compassion, ça veut dire avec passion. Et Jésus a pris ça, cette opportunité. Jésus a saisi cette opportunité puis en a fait une opportunité pour enseigner sa compassion. Et comme d'habitude, il faisait rien sans que... Tu sais, Jésus, il arrivait quelque chose, il avait tout le temps une leçon parallèle. Comme là, il répond rien. OK? Pensez-vous que c'est par hasard? Pensez-vous que Jésus n'avait pas compassion de cette madame? Que Jésus... Évidemment, on sait. On connaît la réponse. Évidemment qu'il aimait cette femme. Évidemment qu'il s'en souciait. Mais il donnait l'apparence qu'il s'en souciait pas parce qu'il voulait enseigner en jouant le jeu de l'indifférence, si vous voulez. Sans dire un mot, OK, parce qu'il dit, on l'a lu, là, il n'a pas dit un mot. La madame en parlait, puis lui, verset 24, non, d'abord, au verset 23, il n'a pas dit un mot, puis après, il a répondu qu'il est envoyé aux brebis, qu'aux brebis de la maison d'Israël. Donc, ça ressemble pas mal à du langage de rejet, c'est comme un test pour la foi de la madame. On va revenir à ça tantôt. Mais il y avait une leçon pour les apôtres, pour leur montrer que leur passion n'était pas à la bonne place. Si compassion, ça veut dire avec passion, ben les apôtres n'avaient pas la passion à la bonne place. La passion était pour eux-mêmes. Ils étaient dirigés vers eux, ce qu'eux voulaient, ce qu'eux... OK? Et non pas vers cette madame dans le besoin. Et donc, Jésus s'est servi de cette opportunité comme une opportunité pour exposer le fait que la direction vers laquelle ces hommes-là étaient, leur passion était vers eux-mêmes et non pas vers les autres. C'est ça qu'il a exhibé, il a montré de par son attitude, l'attitude qu'eux autres avaient, c'est-à-dire de l'indifférence. Jésus a feigné l'indifférence parce qu'il voulait montrer à eux leur indifférence. Mais la trappe là-dedans, c'est que ça n'avait pas l'air de ça. Elle nous dérange, puis ça, il avait l'air un peu comme juste, hey, non, c'est pas correct, ça. Mais en fait, il était indifférent, enfin, elle criait quelque chose, elle avait un besoin, elle dit, hey, pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon, c'est un méchant besoin, ça, là. Il en était complètement indifférent, il trouvait qu'eux autres, être dérangés, c'était plus important que ça. Voyez-vous la différence des besoins? Nous, on trouve ça dérangeant qu'on est dans la ville demain, puis elle a une fille tourmentée par le démon, puis il trouve ça moins important. Quelle indifférence! Jésus met le doigt là-dessus. Voyez-vous ce qui se passe? Jésus avait tout ça au contrôle. Il exposait l'indifférence de leur cœur. Leur passion voilait leur indifférence. Leur passion à la mauvaise place pour eux-mêmes. Il n'y avait pas l'air indifférent, mais il l'était. Et c'est le problème fondamental que Dieu, dans sa bonté, est en train de révéler. Et... ils ont appris la leçon plus tard. Hein? On apprend dans le livre des Actes. Qu'est-ce que Pierre dit quand il va voir après qu'il ait vu Corneille? Puis que là, il fait le rapport à Jérusalem. C'est encore dans la mentalité. Si vous lisez là, Actes 11, hey, t'étais chez les païens, puis tout ça. C'était vraiment c'était ancré. Hein? Paul a dit, Dieu m'a appris. Puis effectivement, Dieu y avait appris. Alors, regardez, comme aucun homme comme impur. Mes amis, les préjugés, les idées préconçues, c'est tenace. Seulement la grâce de Dieu, un esprit supérieur à la puissance de notre chair, l'esprit de Dieu, peut nous en départir. Et ça nous donne une nouvelle saveur, une nouvelle compréhension à ce verset que vous connaissez. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque, même ceux qui dérangent, même ceux qui ne sont pas dans votre boîte, quiconque vous demande de l'espérance qui est en vous. Parce que imaginez-vous, déjà la Bible nous dit que Satan, là, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence de ce monde pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Si notre indifférence en plus est dans le chemin, on est du bord de qui, vous pensez? Du bord de Dieu? On est du bord du diable. Notre compassion, ce n'est pas secondaire. C'est passer au-dessus de la passion qu'on peut avoir pour nous-mêmes puisque nous, on veut. Même si on met ça sur un couvent pieux et tout ça. Non, mes amis. Dieu veut qu'on se laisse déranger, puis il nous met des gens comme ça pour nous montrer là où est vraiment notre passion. Vous savez, on est dans des temps... Moi, il y a des affaires qui me dérangent vraiment. Là. Tout, il y a des mouvements sociaux, là, bon, LGBTQ, puis là, on est rendu avec l'alphabet complet, puis des chiffres là-dedans, c'est rendu comme un code secret compliqué. Je veux dire, c'est pas correct, là. Tu sais, puis en tant qu'enfant de Dieu, on dit, est-ce que Dieu est capable de sauver des gens comme ça, est capable... de les restaurer, de leur donner la vie. Absolument, la Bible dit, c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous, mais Dieu vous a restauré, vous a sauvé, vous a lavé, vous a sanctifié. Tout le kit, mon ami. Un autre mouvement en anglais dit « Social Justice Warrior ». Moi, ça me dérange, celle-là, particulièrement parce que c'était ça que j'étais avant. Moi, j'ai étudié en service social. J'étais un bon, là, toutes les « is », là. Socialiste, séparatiste, ta-ta-ta. Puis ça me dérange, mon domaine, c'est une mentalité... C'est humaniste, OK? Je le dis même en étant choqué. Est-ce que Dieu aime les... Excusez, en français, comment on appelle ça un social justice warrior?
La justice sociale.
Un guerrier de la justice sociale. Tu sais, des gens là, qui veulent, là, oh, faut sauver la planète, l'environnement, puis les inanités, Black Lives Matter, puis tout le kit, là. Je dis, mon ami, tu sais... Je ne sais pas si vous avez le pendant de ça en Afrique, quelque part, mais ici, en tout cas. Mais il faut voir au-delà de ça. Ces gens-là, moi, ils me dérangent, en tout cas. Puis, j'aime pas parler à quelqu'un de même parce qu'on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Mais il faut aller au-delà de ça. Puis, Seigneur, des fois, il nous dérange pour dire, hey, où ta passion? Es-tu dans ce que toi, tu veux, ce que toi, tu penses? Ou tu vois l'âme de cette personne-là pour laquelle Christ est mort puis qui a besoin d'être racheté par son sang précieux? C'est ça qu'il faut voir. Et donc, cette femme cananéenne ou syrophénicienne, elle a fait face à toutes ces circonstances-là. Et là, je veux juste prendre le temps de m'arrêter un peu sur elle, parce que je trouve que c'est remarquable la foi qu'elle a dans son approche envers Jésus. Puis même, parce qu'elle-même, étant païenne, elle avait des préjugés envers les Juifs. On apprend ça avec la femme samaritaine. « Ah, vous les Juifs de même, nous de même, tu sais, puis bon. » Il y avait des clivages sociaux entre les peuples comme ça. Mais n'est-ce pas spécial que c'est quand même Jésus qui a pris l'initiative d'aller dans leur territoire? On voit pas hein, l'amour de Dieu, son initiative. C'est lui qui est allé les voir. C'est lui que Dieu nous a aimé le premier, mes amis. Et donc, cette femme, elle est allée à Jésus malgré ses préjugés, ses choses qu'elle pouvait avoir. Puis c'était réciproque, tout ça, parce qu'on voit avec l'attitude des disciples. Mais elle a persévéré face au silence de Jésus. Elle a persisté face à l'exclusion qu'il lui communique. Moi, je pense que Jésus l'a passé au test quand il dit « Je t'envoie seulement aux brebis de la maison d'Israël. » Et je pense que c'est un peu comme Jacob qui a lutté avec l'ange. Elle a persévéré jusqu'à temps d'avoir la bénédiction de Dieu. Et ça, je le vois avec trois façons. Cette femme-là, je veux juste vous faire remarquer, quand elle crie comme ça au verset 22, « Aie pitié de moi, fils de David. » Je vois l'espérance de la foi là-dedans. Cette femme-là, elle ne connaissait pas grand-chose de Jésus, mais en employant ce terme, « fils de David », c'est une expression messianique. Donc, elle ne comprenait pas tout sur Jésus, mais elle savait, « OK, lui, c'est celui que les Juifs attendent. C'est le Messie. » Il y a une espérance de rattacher à cette expression-là. Puis quand elle crie « Aie pitié de moi », on voit que ce n'était pas juste la théorie. Elle voyait qu'il pouvait faire de quoi ce fils de David, le Messie des Juifs? Pour elle, puis sa fille. L'espérance de la foi. OK? Fait que déjà, quand il dit « Ta foi est grande », ça, c'est le début de comment on voit que ça s'exprime. OK? Ensuite, elle dit « Aie pitié de moi ». Encore au verset 22. Fait que non seulement il a l'espérance de sa foi, mais on voit dans cette expression, « Aie pitié de moi », c'est l'appel de la foi. « Dieu, je crois que toi, tu peux faire de quoi dans ma vie? Aie pitié de moi, c'est l'appel. Dieu, je te veux toi dans ma vie. » C'est quoi le salut si c'est pas invoquer? Hein? « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est ça qu'elle faisait. Elle dit, « Dieu, c'est toi que j'ai besoin dans ma vie. » Et ça, je pense que pour elle, c'était une question de salut. Mais certainement pour nous, si on est des enfants de Dieu, certainement aussi que l'appel comme ça, « Dieu, que j'ai besoin, c'est pas les bébêtes, c'est que tout aille bien, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. » Tu peux bien décider qu'est-ce que tu m'envoies, mais peu importe ce que tu m'envoies, c'est de toi que j'ai besoin. L'appel de la foi. En plus, c'était pas juste pour elle-même, parce que tout de suite, du second souffle, après, elle dit, « ma fille, qui est dans le tourment à cause d'un démon. » Et là, il y a l'expression verset 27, puis je veux prendre le temps de l'expliquer, parce que des fois, on dit, voyons, c'est ça a l'air rough comme passage. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Non, elle parle de miettes, puis Jésus a dit, c'est pas bon de donner la nourriture aux petits chiens. Là, je vais vous expliquer. Là, je vais vous dire, hey, Jésus parle d'eux autres comme des chiens, puis tu vois, écoutez, les Juifs avaient un dédain pour les païens. Puis souvent, ils les appelaient des chiens, OK? Mais l'expression qu'ils prenaient, il y avait deux mots pour chien. L'expression méprisante et méchante qu'ils pouvaient employer, c'était pour un peu comme un animal qui est un peu entre le loup. Puis tu sais, un chien sauvage, entre le loup et le chien, là. Puis ça, c'était des carnassiers, là. Ils mangeaient, tu sais, des cadavres, tout ça. Puis tu sais, on voit, par exemple, quand la reine Jézabel, elle tombe de la tour, puis là, bon, les chiens viennent. Bon, c'est ce genre de bête-là dont il était question, puis bon, c'était très méprisant. Jésus ne prend pas ce mot-là. Il y avait un autre mot qui parlait de, comme nous autres, on prend le petit animal de compagnie. Il y en avait aussi à cette époque-là, parce qu'il y avait des chiens de berger, tout ça. Puis, tu sais quoi, un chien, c'est attachant. Il était attachant aussi à l'époque. Je l'ai étudié, c'est là que j'ai vérifié. Là. Il y a des Juifs, il y avait des chiens, puis tout ça, c'était des animaux aussi. Peut-être pas au même niveau que nous. Il n'y avait pas de la bouffe à chien dans le temps. Mais de toute façon, déjà, mon beau-père ne fait pas si longtemps, puis au début qu'on avait un chien, il dit, vous donnez de la bouffe spéciale à un chien? Faut dire, voyons, tu donnes des restes de table à un chien, tu sais, bon. Mais à part ça, là, je veux dire, aux autres aussi, il y avait ça, puis bon. Donc, c'est le terme que Jésus emploie. Donc, déjà, on voit qu'il ne prend pas le langage péjoratif et méprisant que les gens pouvaient prendre, mais il prend une image qui fait un parallèle. Oui, c'est ce que les gens peuvent avoir comme perception. Ah, oh, eux autres, les chiens les excluent. Puis Jésus, encore là, il la met à l'épreuve, mais elle s'identifie comme, OK, c'est peut-être que je suis en comparaison avec les Juifs, mais c'est-tu quoi? En voulant dire, oh, on n'est pas comme les maîtres qui sont assis à la table, puis les Juifs ont eu toutes les bénédictions directes de Dieu, ils sont fait donner la loi, les prophètes et tout ça. Mais juste les miettes, c'est suffisant pour moi. Ça, c'est quelque chose, mes amis. Au lieu de voir dans le langage de Jésus simplement du rejet, elle voyait l'occasion de plaider pour son besoin. OK, c'est vrai, c'est juste des miettes, mais les miettes qui viennent du Seigneur, c'est mieux que le festin que le monde peut m'offrir.
Amen.
C'était quelque chose pareil, là. Il y a une foi incroyable dans ce qu'elle dit là, là. C'est l'audace de la foi. C'était vraiment... Tu sais, moi, je pense que cette femme-là, elle avait été aux citernes crevassées qui retiennent pas l'eau dans le monde, puis elle voyait bien que ça donnait rien. Mais là, elle allait vers celui qui est le fils de David, puis qui pouvait avoir pitié d'elle, et elle croyait qu'il pouvait. Puis c'est pour ça qu'elle tenait ce genre de langage-là, que même des miettes avec cette personne-là, c'est bien mieux que tout ce que le monde peut offrir. Wow! Donc ça, c'est la première chose sur la compassion. Que Jésus enseigne l'importunité. Cette madame-là était dérangeante. Ensuite, on arrive dans verset 29 à 31, la gloire de la compassion. On voit au verset 29, Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'assit. Quand on dit la montagne, c'est pas une église, la décapole qui est sur une région élevée. Là, okay? Pour ça, je vous dis, là, je ne veux pas tout rentrer dans les détails, mais le problème est qu'il est encore en territoire avec hautement peuplé de païens. Alors, il s'approcha de lui une grande foule avec des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. Et on les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir des muets qui parlaient, que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Puis là, c'est là encore, je vois qu'on a une confirmation que c'était des gens d'origine païenne, parce qu'il dit, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. la gloire de la compassion. Qu'est-ce que ça a donné, cette compassion que Jésus, il donnait gloire à Dieu. Jésus avait compassion d'eux autres, puis ils ont donné gloire à Dieu. Et Jésus, autant comme avec la femme, ou avec les disciples qu'on a vu, Jésus ne voulait pas rabaisser la femme, il ne voulait pas rabaisser les disciples, il voulait élever son nom, il voulait élever sa réputation, sa personne devant les gens. Ben, ces gens-là l'ont pogné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu Jésus faire ça, ils ont élevé son nom. Donc, ils ont rentré dans le but dans lequel Jésus voulait. Ils ont donné gloire à Dieu pour sa compassion. Et, vous savez, il y a des gens comme ça qui ne sont pas conformes à nos attentes, qui ne sont pas dans notre club, les gens avec qui on se tiendrait. Mais Dieu nous les envoie. Puis j'aimerais qu'on comprenne que si Dieu nous les envoie, c'est pas pour nous-mêmes. Si Dieu était dans ce territoire-là, si Dieu était avec les gens dans ces contrées-là, c'était pas pour eux-mêmes premièrement. Ah, Dieu, ils ont bénéficié de ça, mais c'était pour sa gloire. Puis si Dieu nous dérange demain, c'est pas pour nous, parce que lui veut se glorifier. C'est ça la gloire de la compassion, c'est voir qu'il y a bien plus que nous autres en jeu quand Dieu fait des affaires dans notre vie. C'est pour lui qui fait ces choses-là, c'est pour se glorifier dans nos vies, à travers nos vies. Et un peu comme dans la situation avec la femme, où est-ce que Dieu a utilisé, dans le fond, cette situation pour révéler ce qui était dans le cœur de ses disciples, pour jeter la lumière sur leur passion qui n'était pas à la bonne place. Ben ici, il utilise des païens qui ne connaissaient rien à Dieu, qui étaient idolâtres, qui vivaient mal. Ils vivaient, tu sais, c'était pas des gens exemplaires, là, je veux dire. Pas pour rien que les Juifs avaient de la misère avec eux. C'était des païens. Mais Dieu les prend pour révéler sa gloire. Il a révélé ce qui était dans le cœur des disciples avec la femme. Puis ici, il révélait sa gloire à travers ce peuple-là. La gloire de sa personne, de son œuvre. Il disait, wow! Il était dans l'admiration, la Bible nous dit. Et de ses lèvres impures, de ces gens païens et méprisés, ressortait la louange et la gloire du Dieu éternel. C'est quand même quelque chose. On voit comment Dieu se glorifie à travers les instruments qu'il veut bien. Ils étaient dans l'admiration, eux, de toutes les personnes qu'on aurait pu imaginer. C'est eux qui glorifiaient Dieu, qui l'admiraient. Pourquoi? Parce qu'ils appréciaient que Dieu s'était révélé à eux. Là, je veux faire un point ici. Je pense que les disciples avaient perdu cet émerveillement-là. Comprenez ce qui se passe là. C'est un bout que Jésus, il s'en va avec les disciples, tu sais, puis c'était pas le premier miracle que les disciples voyaient. Mais eux, wow, ils n'avaient pas vu ça, puis ils disent, c'est qui ce Dieu? Ils étaient émerveillés. Alors que je crois que les disciples étaient habitués. Ils étaient familiers. Rappelez quand j'ai dit ce matin, tu sais, Jean 3,16, psaume 23, il y a des passages qu'on ne devrait jamais être familier avec parce que il faut toujours qu'il reste précieux, il faut toujours qu'il reste spécial. Puis, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu la phrase, la familiarité engendre le mépris. Des fois, quand on est tellement habitué à quelqu'un, puis tout ça, bon, on le prend pour acquis. Bon, puis là, je vais prendre un exemple classique, un vieux couple. Pas si on se qualifie, nous autres, 21 ans. Non, on est encore un jeune couple, là. Mais, ou tu sais, bon, des amis, c'est différent un peu, mais... Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on connaît quelqu'un, ou des fois, bon, une église. Ah, ça fait longtemps. Puis là, des fois, on prend ça pour acquis. Voici le danger qu'il y a avec ça. C'est qu'on peut prendre pour acquis, trouver normal... Quelque chose qui est extraordinaire. Je sais pas si vous savez, là, mais si on est un enfant de Dieu, puis on connaît le Dieu vivant, il n'y a rien de normal puis d'ordinaire là-dedans, c'est extraordinaire. Connaître le Créateur de l'univers, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a donné la vie, nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, il n'y a rien de normal là-dedans, puis ça devrait toujours garder une fraîcheur, quelque chose d'émerveillant. On devrait, nous aussi, être dans l'admiration face un si grand Dieu qui est si bon envers nous. Et rappelez-vous, je n'ai parlé ce matin, mais c'est quoi la clé de la victoire dans la vie chrétienne? C'est simplement de voir là où est Dieu est en train de travailler. Rappelez-vous, j'ai dit, on n'a pas besoin d'essayer de trouver quoi faire, tout ça. Non. Moi, j'ai pas besoin de trouver quoi faire. Parce que si moi, je veux trouver quoi faire, c'est moi l'initiateur, c'est moi qui ai besoin de l'idée. Mais si je cherche qu'est-ce que Dieu est en train de faire, je reconnais que c'est lui l'initiateur, puis là, par la foi, j'embarque là-dedans. OK? Vous êtes d'accord? On a parlé de ça ce matin? Bon. Ben, je pense que là où le danger de quand on s'habitue, là, c'est comme, année, Dieu travaille dans notre vie, mais on est tellement habitué, on n'est plus émerveillé, puis on prend ça pour acquis, puis on ne le voit plus. On s'en rend plus compte. Parce que on apprend, avec Élie, Dieu n'est pas tout le temps dans le feu, puis dans le tremblement de terre, puis dans le grand vent. Des fois, c'est juste une petite voix douce. Mais c'est Dieu qui est là-dedans. C'est d'apprendre à le reconnaître. Et je pense que cette naïveté, cette innocence, comme d'un enfant face à Dieu, ça nous garde dans cette disposition-là de le voir à l'œuvre, de le reconnaître et d'embarquer là-dedans. Mes amis, on doit faire très attention. Il y a un danger spirituel réel et grave à prendre Dieu pour acquis dans notre vie. Puis en passant, quand on prend Dieu pour acquis, tout est reflété, notre relation avec Dieu est reflétée dans les autres. On va prendre aussi les autres pour acquis. Fait que si je prends les autres pour acquis, ça veut dire que je prends Dieu pour acquis. Et quand je vis ce type de vie, je ne vais pas garder ça pour moi-même, tôt ou tard, inévitablement, c'est ça, ça va porter du fruit, aboutir dans mes relations avec les autres, soit de façon négative, mais aussi, lorsque je suis émerveillé de Dieu, lorsque je vois Dieu travailler, puis que j'embarque dans son travail, là, la vie de Dieu, non seulement elle agit dans ma vie, mais elle va se reproduire dans celle des autres. Et c'est le troisième enseignement de Jésus sur la compassion. Non seulement l'importunité de la compassion, la gloire de la compassion, mais dans les versets 32 à 39, avec le miracle des 4000, la multiplication des pains pour 4000, la reproduction de la compassion. On lit au verset 32, « Ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, montant dans une barque et se rendit dans la contrée de Magada. Je pense que je l'ai souligné en introduction, mais il y a quelque chose, il y a un mordant à notre leçon d'aujourd'hui, au verset 32, Jésus il dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Jésus leur communiquait son cœur. Puis je pense que ça a dû résonner dans leur cœur. « Ouais, moi je suis ému de compassion. Ah, la madame, je la trouve dérangeante, puis là, je n'ai pas trop quoi faire avec eux autres, mais est-ce que je trouve plus que c'est un problème à régler ou je vois des gens qui sont dans le besoin? » Là aussi, est-ce que vous voyez les opportunités de Dieu comme des problèmes à régler? Ou Dieu qui suscite la compassion de vos cœurs. Et Jésus voulait leur montrer la bonne disposition à avoir face à ceux comme ça, les gens du dehors, les gens qui peuvent nous déranger, puis tout ça. Puis il voulait reproduire cette attitude en eux. Cette vie qui animait Christ, il voulait la reproduire dans ses disciples. Et savez-vous que c'est encore le cas aujourd'hui avec ce que le Seigneur fait dans nos vies? Dieu est vivant, puis il veut reproduire cette vie, il veut qu'elle grandisse à travers nous, dans nos vies, exactement de la même façon comme il s'y prenait ici. J'explique. Jésus voulait reproduire cette compassion. D'abord, il les met face à leur dépendance. Il dit, « C'est quoi vous avez? » Il avait ce marié. Est-ce que Jésus avait besoin d'informations? Est-ce que Jésus il dit, hey, combien ils ont de poissons? Puis ça m'en prend au moins 7 pour 4000. Jésus n'avait pas besoin. Jésus, il aurait pu même pas de poissons, il aurait pu faire apparaître des poissons puis les nourrir. Il n'avait pas besoin d'informations quand il leur posait la question. Jésus faisait tout avec un but. Il voulait leur montrer, vous n'avez rien, mes amis, vous dépendez de moi. Ou sinon, vous dépendez de vos moyens humains. Ben là, dans un désert de main, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, il voulait les mettre face aux situations. OK, on n'a comme pas d'issue, là. OK, ça, c'est le point de départ. Il était incapable, verset 33. Les disciples dirent, comment nous procurer dans le désert? OK, non seulement il n'y avait rien, mais ils ne pouvaient pas se procurer dans le désert du pain pour une aussi grande foule. OK? Mais évidemment, Dieu voulait les amener à lui. À lui, le Dieu qui est capable et qui peut prendre le peu qu'on a, hein, les 7 poissons, puis ça, puis faire de quoi avec, puis rassasier. J'aime au verset 37, tout le monde était rassasié. Et on a déjà exploré ça un petit peu dans le miracle pour les 5000 personnes auparavant. Mais tu sais, l'important, c'est pas ce que nous, on a ou ce qu'on n'a pas. C'est qu'est-ce qu'on fait avec, à qui on va. Là, on peut dire, ils sont allés à la bonne place. À la bonne personne. Il n'y avait pas grand-chose, mais ils sont allés à celui qui a toute chose. Et le peu qu'il y avait a été reproduit. Savez-vous quoi? C'est vrai pour des pains. Mais je pense que dans la leçon qu'on considère aujourd'hui sur la compassion, le peu de compassion qu'il y avait, là, ça aussi, elle a grandi. Parce qu'ils ont vu, waouh, Dieu a fait quelque chose avec cette madame-là qui nous dérangeait. Dieu a fait quelque chose avec ces païens-là qui ont glorifié le Dieu d'Israël. Dieu a fait quelque chose avec ces gens-là qui n'avaient rien dans le désert. Puis cette compassion qu'il y avait dans le cœur de Jésus, c'est du quoi? Ça devait brasser pas mal dans le cœur des disciples. Dieu reproduisait pas juste des pains, mes amis, sa compassion dans le cœur de ses disciples. Puis voici une façon typique et merveilleuse par laquelle Dieu accomplit ce genre de choses-là dans nos vies. Il nous met devant des personnes qui nous importunent. N'est-ce pas? Ça vous arrive, hein? On a des gens qui nous importunent. Il les met dans notre vie pour faire un switch en bon québécois, pour faire un transfert de ma passion qui est à moi, pour moi, hein, les passions qui luttent dans mes membres, qui sont pour me servir, hein? On n'a pas besoin d'apprendre ça à l'école. On est tous passionnés pour nous-mêmes, de nature, étant pécheurs. Et donc, Dieu nous met des gens de main qui nous dérangent, puis il dit, ta passion est mal placée. Faut que tu aies compassion. Faut que tu aies avec cette personne-là, avec une passion pour moi, puis que tu la transfères pour cette personne-là qui a besoin d'avoir de la compassion. Puis pour prendre un autre mot biblique, c'est sorti aussi ce matin dans la prière, quand Dieu fait ça, il veut nous amener à la miséricorde. Et la miséricorde, savez-vous c'est quoi? Ça vient de deux mots, miséré, misère, cardia, cœur. C'est l'idée, c'est je sens ta misère dans mon cœur. C'est ça que ça veut dire, miséricorde. Ta misère est dans mon cœur. Au lieu que ma passion soit pour moi, puis ce que je veux, puis ce que j'aime, Dieu me met quelqu'un qui m'importune pour que sa misère, puis c'est quoi? C'est quelqu'un qui nous fait mal, quelqu'un qui nous dérange, je vous garantis, il est misérable. Quelqu'un qui donne du trouble à tout le monde, là, il va pas bien dans sa vie, là. Mais Dieu veut qu'on le sente dans notre cœur. Et là, voici ce qu'il va faire ensuite. Parce que Dieu, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui délivre, mais il veut juste des instruments. Parce que la miséricorde, miséricardia, ça veut dire ça, mais aussi la miséricorde, bibliquement, Dieu, qui est miséricordieux, c'est qu'il délivre les gens de leurs conditions misérables. Dieu va prendre quelqu'un qui est dans une condition misérable, physiquement, spirituellement, puis il en sort. Ça, c'est la définition biblique de la miséricorde. C'est sortir quelqu'un de sa condition misérable. Donc, pour résumer ce que je suis en train de dire, Dieu prend du monde qui nous dérange de même, qui nous importune. Il nous montre que notre passion n'est pas à bonne place. Il veut qu'on ait de la compassion pour qu'on arrive à avoir la misère dans le cœur de cette personne-là, dans notre cœur, parce que lui veut sortir cette personne-là de sa condition misérable. Que Dieu nous aide à voir ces yeux-là, qu'on voit au-delà de ce que nous, ça nous dérange, puis voir que cette personne-là, elle a besoin de compassion, puis de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être sortie de sa condition misérable. Puis soyons pas condescendants de même, là. On est tous misérables. Là. Mais des fois, Dieu nous met des gens de main qui nous dérangent, au lieu de voir leur dérangement, qu'on voit quelqu'un qui a un besoin. Puis le besoin, c'est Dieu qui le répond. Parce que Dieu est la réponse à tous les besoins. Donc, si Dieu nous parle à nous, ses enfants, c'est parce qu'il veut qu'on
nous utiliser pour être des instruments dans ses mains rédemptrices, pour que lui opère sa délivrance dans la vie de cette personne-là. Parce que oui, elle est dérangeante, oui, elle fait du mal, mais justement, c'est parce qu'elle est misérable qu'elle-même. Comprenez-vous? Puis bienvenue dans le club, on est tous de même. Je veux dire, il n'y a pas personne qui peut dire, vous êtes les misérables. C'est qui, je pense, c'est Hillary Clinton qui a dit ça? A basket of deplorables. Et ça, c'était méprisant, mes amis, là. Elle a dit ça. Bon, bon, je ne parlerai pas trop de politique, là, mais oui. Mettons, mon opinion d'elle n'était pas très élevée en partant, mais tu sais, elle parlait, je pense que c'est ça, Kevin, elle parlait-tu des électeurs de Trump? Elle dit, c'est un panier de déplorables. Je veux dire, c'est donc gentil de dire ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas l'attitude qu'on devrait avoir, là, face aux gens qui nous dérangent. Mais quand on comprend ce que Dieu... Je reviens à ce que je disais à matin, puis que j'ai répété au début du message. Si Dieu fait ça, c'est parce que Dieu est en train de faire de quoi? Puis Dieu veut m'embarquer là-dedans. Moi, j'aurais peut-être pas choisi ça, j'aurais peut-être fait autrement, mais c'est pas moi qui décide. Va falloir qu'on arrive au point où est-ce qu'on dit, OK, c'est-tu moi qui va décider comment ça marche dans ma vie, ou je vais laisser Dieu faire comment lui veut? Puis ça, c'est là que le bas blesse. Parce que nous, on dit, ouais, mais Seigneur, j'aime pas ça être dérangé. Puis Seigneur, tu vois, la personne a bien des problèmes. Mais Seigneur, c'est grave ces problèmes qu'elle a. Mais Seigneur, tu comprends pas, là. Évidemment qu'il comprend. Mais on parle de même au Seigneur. On est insensé de même. Évidemment que Dieu, il sait. En fait, c'est nous qui comprenons pas grand-chose, tu sais. Puis Dieu fait ça parce qu'il est en train de faire... Dieu, il est grand, puis il fait quelque chose avec cette personne-là, puis avec nous. Dieu fait tout avec un but. Je veux conclure avec une idée simple, avec ce qu'on a considéré aujourd'hui. Le problème, c'est pas que Dieu veut pas ou peut pas délivrer, ou qu'il peut pas non plus, ou il veut pas nous utiliser pour opérer sa délivrance. C'est pas ça le problème. C'est pas un problème de volonté ou de capacité chez Dieu. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas. On veut pas être importuné. On n'aime pas ça être dérangé. On n'aime pas ça être sorti de notre petite boîte. On n'aime pas ça être sorti de notre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on a trop de passion pour nous-mêmes, pour nos projets, pour nos idées, pour nos plans. Puis on n'est pas assez passionné pour ceux de Dieu, puis des autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de compassion. La passion est pour nous autres. Mais heureusement, Dieu nous l'enseigne encore, comme il l'a enseigné aux disciples autrefois. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi dans toute cette image-là, puis juste une petite parenthèse. Tu sais, il y avait un repas ici, là, à la fin du chapitre, là. Ils ont mangé ensemble. Puis quand on comprend que c'était une culture d'honneur, ou est-ce que, si vous connaissez les cultures africaines, Middle East, là, du Moyen-Orient, l'Asie, c'est des cultures d'honneur, puis tu sais, avoir un repas avec quelqu'un, inviter quelqu'un chez nous, veut dire, tu peux pas, mettons là, que je verrais quelqu'un là qui vient chez nous comme ça, puis là-bas c'est impensable, tu l'invites à manger chez vous, puis c'est la chose à faire, tu sais, sinon t'es comme, c'est comme si tu déterres ta grand-mère si tu l'as pas faite, là. Comprenez-vous? C'est comme si c'est une culture d'honneur, puis tu déterres ta grand-mère dans le sang. Tu sais, c'est l'honneur de la famille, puis tu sais, voyons, chez nous, on n'est pas des sans-cœurs qu'un étranger vient, non seulement il va t'offrir à manger, il va t'offrir le logement, puis... Je veux dire, c'est de même que ça marche, là. OK? Nous, on comprend pas ça, on dit « Ah, j'ai pas le temps, puis merci d'être passé, puis on ferme la porte. » Puis s'il est chanceux, il a pas claqué sur le nez, OK? Mais, il y a quelque chose là-dedans. Jésus fait ça avec des païens. Il leur donne l'honneur à eux, les déshonorables. Et n'est-ce pas ça, la compassion? N'est-ce pas ça, la miséricorde? Parce que quand on y pense, là, c'est ça. On dit, ah, cette personne-là, elle ne mérite pas rien, elle n'est pas honorable. Tu sais, je fais du ministère dans les prisons, là. Puis, probablement, là, en tout cas, on prie là-dessus, mais Alejandro est venu, puis l'essayer, c'est l'adopter, là. Il a eu la piqûre, puis il a eu hâte de retourner, puis ça, puis là, peut-être que frère Bastien va pouvoir venir aussi. Puis on dit, ah, mais ces gens-là sont pas honorables, ils ont fait des choses horribles? Absolument. Il y a des lifers, comme on appelle, les gens qui sont là 25 ans minimum pour une meurtre au premier degré, là. Mais tout le monde a son histoire là-dedans. Puis c'est quoi quand on a compassion, puis tout ça? La personne est-tu honorable en elle-même de parce qu'elle l'a fait? Non. Mais avec la compassion puis la miséricorde, on voit... Oui, mais c'est une personne faite
à l'image de Dieu. Dieu l'a créé et ça, c'est honorable. Juste asseyez-vous là-dessus pour terminer la journée aujourd'hui. Là, quand vous pensez que quelqu'un n'est pas honorable, ça veut dire, c'est qui a fait cette personne-là? Ah, la personne a scrapé sa vie. J'aime l'expression que notre frère a prié ce matin. Le long du chemin, voyons, le mot, il manque, par exemple, magané, non. Amoché. C'est-tu ça qu'il dit, amoché? Ça, c'est une bonne expression québécoise, mes amis africains, là, amoché. Puis on se dit, ah, mais cette personne-là, elle ne mérite pas l'honneur. Non, en tant que telle, elle ne mérite pas, mais à cause de Dieu, à cause que Dieu l'a fait. Et, mes amis, Jésus, nous, c'est ça qu'il veut enseigner quand il veut enseigner la compassion. Parce que pensez-y, là, est-ce que nous, on était sauvés parce qu'on était honorables, puis que Dieu a dit, hey, cette personne-là, je vais la sauver parce qu'elle a un honneur que je ne voudrais surtout pas offenser, il faut que je la sauve. Non, mes amis. Mais pourquoi nous, on est différents avec les gens? Parce qu'on se prend pour Dieu. On pense que nous, on peut faire la sélection. On pense qu'on est plus sage que Dieu, puis ou est-ce que Dieu n'a pas fait ça, nous, on a le droit de le faire. N'est-ce pas de l'incrédulité, puis de l'orgueil? Oh, que Dieu sonde nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cet arrêt dans ta vie. Ensemble, on a pu regarder un beau moment où est-ce que... Ah, t'as enseigné une leçon merveilleuse à tes disciples et tu nous l'as enseigné après-midi. Merci, Saint-Esprit, de nous amener ensemble dans cette scène, dans ce vécu qui est arrivé il y a 2000 ans, mais que tu nous as amené tout frais après-midi ensemble. Et Seigneur, sonde nos cœurs. On n'aime pas être dérangé. On a une passion pour nous-mêmes et on a de la misère à transférer cette passion à toi et aux autres autour de nous, spécialement ceux qu'on ne trouve pas honorables. Seigneur, on vient te confesser ça, honte à nous. On vient te confesser notre orgueil, notre pharisianisme, notre suffisance de nous-mêmes. Et on s'humilie devant toi, Seigneur. Et on sait que dans ta grâce, tu nous as dit ces choses parce que tu veux reproduire ta compassion en nous. Et que dans ta grâce, tu mets des gens qui nous importunent parce que tu veux que toi, le Dieu vivant et vrai, que tu aies la gloire par ces personnes-là, Seigneur. On veut répondre par la foi en te faisant confiance que tu fasses tes choses à ta façon dans nos vies. Seigneur, qu'on arrête d'être passionné pour nos plans, nos idées. Qu'on arrête d'être si gros puis prendre tellement de place dans notre vie. Mais que toi, Seigneur, t'aies prééminence, t'aies toute la place, parce que c'est toi qui la mérites, c'est toi l'honorable, Seigneur. Merci de nous enseigner après-midi. Merci de nous prendre par la main. Comme t'as pris tes disciples pour les enseigner avec patience, avec grâce. T'étais bon, t'étais patient envers eux, comme tu l'as envers nous. On te remercie pour ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez...